Bonjour Titu Lecoq.
Bonjour.
Vous êtes essayiste, romancière. Votre dernier livre remonte le temps de la préhistoire à nos jours, à la recherche des femmes oubliées, les grandes oubliées. Mais pourquoi l'histoire a-t-elle effacé les femmes? C'est le titre de cet ouvrage publié chez l'Iconoclaste. Préface de Michel Perrault, ça vaut comme un adoubement pour vous, l'historienne.
Complètement.
Ouais. Parce que, comme avec notre passé esclavagiste, eh bien les livres, et en particulier les manuels d'histoire, ne nous auraient pas dit la vérité sur la place des femmes dans l'histoire.
Oui, en tout cas, moi, ce que j'ai appris à l'école, je me suis rendu compte que beaucoup de choses étaient fausses et qu'à l'époque, pendant longtemps, ça nous a pas dérangé. Il n'y avait pas une malveillance hein, particulière de nos profs d'histoire ou de ceux qui faisaient les programmes. Mais on vivait avec l'idée que les femmes s'étaient occupées de la maison et des enfants, donc elles avaient été empêchées d'aller dans le monde et de faire des choses et de participer à l'histoire. Et en fait, les historiennes, en travaillant sur le sujet, se sont rendues compte que c'était faux et ça a même un nom, ça s'appelle le mythe de la femme empêchée.
Je vous cite sur ce registre. Si les femmes n'apparaissent pas dans l'histoire, c'est parce qu'elles avaient été trop occupées avec les enfants, le ménage et le ragoût de pommes de terre. Évidemment, vous passez le temps dans votre livre à prouver le contraire.
Oui, mais c'est ça qui est fascinant, c'est vraiment, il y a une ébullition sur ces sujets-là ces dernières années. Il y a plein d'historiennes qui font leur thèse à chaque fois sur des sujets passionnants. Et donc, de se rendre compte, on le sait beaucoup sur la préhistoire, qu'effectivement, on est en train de redécouvrir la femme préhistorique.
On va y revenir
dans un instant.
Mais ça
marche sur toutes les époques.
À propos de ces chercheuses, sur ces femmes, enfin, d'abord sur ces femmes qui sont tombées dans ce qu'aimait Césaire, hein, c'est dans votre livre, appelle l'oublioir, hein, quand il évoque la place des Noirs dans l'histoire et dans les livres. Pour ce livre, vous vous êtes appuyé sur les travaux de chercheuses que certains esprits ne manqueront pas de qualifier de partisanes.
Oui, alors c'est le problème, hein, c'est dès qu'elles sont historiennes et le fait de travailler sur l'histoire des femmes, elles sont toujours suspectées d'être militantes. Et ce que j'essaye d'expliquer aussi dans le livre, c'est pourquoi l'histoire des femmes serait militante et que ce qu'on nous apprend comme histoire, qui est une histoire masculine et non mixte, ne serait pas aussi une forme de militantisme.
Mais il y a des hommes qui travaillent sur l'histoire des femmes ou pas?
Alors, il y en a quelques-uns, effectivement, qui produisent des super travaux, mais c'est vrai que c'est quand même majoritairement des femmes et que plutôt, jusqu'à présent, ça les desservait d'un point de vue universitaire, quoi.
Alors, ce livre, ce qui est très intéressant, c'est que ça offre à toutes les jeunes filles qui veulent bien le lire des modèles féminins, parce que finalement, du coup, on les a pas, ces modèles-là, puisqu'on n'en lit pas beaucoup dans les manuels d'histoire. Vous, à titre personnel, vous êtes identifiée à qui ? À un homme ou à une femme dans le parcours qu'est le vôtre ? Est-ce que vous avez eu comme ça besoin de vous identifier à quelqu'un ?
Je me suis rendu compte en écrivant le livre, je me suis posé la question, comment est-ce qu'on grandit quand on est une petite fille et qu'on nous raconte une histoire avec que des hommes?
Exactement. Vous êtes prise pour Napoléon ou pour Charles de Gaulle?
Je ne me suis jamais prise pour Napoléon, mais très petite, je voulais écrire des livres et mon modèle, c'était la comtesse de Ségur. Donc c'était quand même une femme et je me dis, mais quelle chance voilà, qu'il y ait eu cette femme-là qui a écrit pour les enfants.
Parce que malgré les réformes annoncées et faites sur notamment les livres scolaires, la place des femmes y est toujours sous-estimé, mésestimé, voire menti.
Alors, c'est même pire que ça. La place des femmes, là, dans la nouvelle mouture des programmes scolaires d'histoire en seconde générale, avec la réforme du lycée, on a refait l'année dernière les programmes, les femmes ont moins de place qu'avant dans les programmes d'histoire. Donc on est sur une régression, ce qui est un peu contre-intuitif avec l'évolution de la société en ce moment. C'est pas moi qui le dis, hein, des historiennes ont regardé, ont travaillé sur le sujet de l'association Mnemosyne, qui sont des historiennes spécialistes de la question de l'enseignement de l'histoire des femmes. Et donc on est sur un recul, et ce qui montre bien qu'il faut toujours rester vigilante, quoi. Que quand on a l'impression que ça avance, en fait, quand on regarde dans le détail...
On est sur un recul. Malgré toutes les promesses faites de redonner la place aux hommes et aux femmes de l'histoire.
Oui, on est sur c'est quand même un peu du roman national, hein, ce qui est enseigné, et qui est plus sur les victoires militaires, beaucoup sur Napoléon, sur ce genre de choses. Et donc les femmes n'ont pas de place, et en même temps, par contre, au programme de français, Olympe de Gouges est entrée là au programme. Donc ça, c'est bien. Mais en histoire, non.
On a l'impression qu'on avance toujours petit à petit. En fait, non. Il y a des moments où on recule, en fait, clairement.
On recule. Et ça, c'est vraiment en faisant ce travail de recherche historique, je me suis rendu compte de ça, que on a un peu cette idée que la marche naturelle de la civilisation, c'est pour aller vers plus d'égalité.
Exactement.
Qu'on partirait d'un état sauvage d'inégalité, qu'on tendrait, voilà, avec la culture vers l'égalité femmes-hommes. Et ce que nous apprend l'histoire, c'est que c'est faux. Et qu'il y a des fois, les femmes ont gagné en liberté et d'autres périodes où elles perdent. Et c'est déjà arrivé qu'elles perdent en liberté. Et il y a un enseignement, je pense profondément politique là-dedans, qui est de se dire rien n'est gravé dans le marbre, ce qui veut dire pour nous, notre génération, qu'à l'avenir, on peut perdre des droits et des libertés pour les femmes. C'est possible, c'est déjà arrivé, mais aussi on peut en gagner.
Donc, faut se battre.
Alors, ouais, si on reprend la fresque chronologique, on va commencer par la préhistoire. Dès la préhistoire, on ne parle que des hommes de la préhistoire, l'homme de Néandertal, la femme préhistorique. La femme de Néandertal, ça sonne pas à l'oreille. Ça veut dire que dès le début de la civilisation, c'était écrit, l'histoire dès la préhistoire n'était accordée qu'au féminin, qu'au masculin.
Alors, dès le début de la civilisation, si on dit que c'est le 19e siècle, le début de la civilisation.
Alors, moi, je suis remonté beaucoup plus loin, je suis à la préhistoire.
Oui, mais en fait, notre vision de la préhistoire a été formée au 19e siècle, qui est le moment où on découvre effectivement des restes, etc. Donc, on découvre la préhistoire. Et évidemment, les hommes du 19e siècle qui pensent vraiment que la place des femmes est naturellement à la maison, que c'est naturel, donc que ça a toujours été le cas, calquent en gros leur modèle un papa et une maman à la maison sur la grotte. Les hommes sont forcément partis chasser, ont fait du feu et les femmes étaient dans la grotte avec les enfants.
Mais d'ailleurs, dans ce livre, vous racontez votre propre conditionnement. Vous êtes même étonné à envisager que finalement, c'était normal que les dessins, l'art rupestre, soit fait par des hommes. Vous n'aviez même pas envisagé que ça puisse être une femme.
Oui, c'est ça qui m'a frappé. Je me suis dit, je n'avais jamais imaginé que la grotte de Lascaux, ça puisse être une œuvre collaborative avec des femmes. Et en vrai, on n'a aucune preuve que ça n'ait été que des hommes. Mais on est tellement sur cette idée d'associer le génie et la création artistique avec le masculin, qu'on n'a même pas pensé à autre chose.
Alors moi, j'ai beaucoup plus préféré la partie consacrée au Moyen-Âge.
Oui.
Parce que c'est une très longue période historique. D'abord, le Moyen-Âge, vous le rappelez, hein, c'est presque 1000 ans, durant laquelle les femmes étaient partout. Elles exerçaient d'ailleurs à peu près tous les métiers. Elles pouvaient être reines de France, par exemple. On l'a complètement oublié. Elles pouvaient aussi bâtir des cathédrales. On parlait des bâtisseuses de cathédrales. Pourquoi cette situation? Est-ce que ce sont les hommes, à l'époque, qui avaient accepté de laisser un peu de place aux femmes, ou est-ce que c'était les femmes qui ont osé conquérir leur place?
Alors, sans doute les deux. Ce qui est intéressant sur le Moyen-Âge, et c'est pareil, pendant longtemps on s'est dit, quand on dit c'est moyenâgeux, voilà, c'est un peu arriéré, donc on imaginait qu'elles étaient enfermées chez elles avec leurs petits chiens en train de jouer, qu'il se passait rien. Et en fait, en histoire, il y a vraiment quelque chose, c'est tant qu'on cherche pas les femmes, on les trouve pas. Mais quand on a commencé à les chercher, donc quand les historiennes des années 70 ont commencé à les chercher dans les sources, elles les ont trouvées.
Et vous en avez trouvé plein d'ailleurs.
Alors, c'est pas moi. Moi, me repose sur le travail des historiennes, mais elles les ont trouvées dans les registres, effectivement, de métiers de l'époque, où on va trouver des jongleresses, des ménestrelles, des orfèvresses. Et donc, c'est tous les noms de métiers qui existaient au féminin, parce que les femmes les pratiquaient.
Mais pourquoi elles ont cette place-là, à ce moment-là de l'histoire?
Parce qu'on n'est pas encore, en vrai, la société construite sur une différence fondamentale entre masculin et féminin, ça vient bien plus tard, c'est très moderne comme idée. Et à l'époque, on est sur une société qui est basée sur des classes sociales. En vrai, il vaut mieux être une femme noble qu'un homme paysan. Et ça, ça va disparaître avec la Révolution. Mais donc, au Moyen-Âge, les femmes nobles, elles ont, alors ce que les historiennes appellent très joliment, je trouve, leur agentivité, c'est-à-dire qu'elles ont une capacité d'action sur le monde.
Et puis le Moyen-Âge, c'est aussi la chasse aux sorcières, plus que la chasse aux sorciers, et ça a été favorisé par l'imprimerie Gutenberg.
Alors oui, alors en fait, on a l'habitude de l'associer au Moyen-Âge, mais c'est plutôt la Renaissance. Alors pareil, en fait, quand on prend le prisme des femmes, tout ce qu'on a appris à l'école prend une autre couleur, quoi. Ça devient la Renaissance, et les lumières, ça devient beaucoup moins lumineux. Donc à la Renaissance, moi, je me souviens des cours d'histoire où je pense même ma phrase était soulignée dans mon cahier. L'invention de la primerie, c'était pouvoir propager le savoir et l'humanisme dans le monde, donc c'était forcément très bien. Quand on regarde concrètement ce qu'on publiait, les best-sellers de l'époque, il y a beaucoup de manuels de chasse aux sorcières. Alors, en France, on a assez peu brûlé.
C'est surtout en Allemagne. Hein.
Voilà. Ouais, la mise en œuvre de la chasse aux sorcières, c'est plutôt dans les autres pays. Mais chez nous, on a beaucoup théorisé. Ça, c'est la France. On est dans la culture, l'intellectuel. Donc, on a eu beaucoup d'intellectuels qui ont théorisé sur comment reconnaître les sorcières, comment il faut les tuer, en les brûlant, les noyant, etc. Et ces livres, il y a réédition sur réédition parce que ça cartonne à l'époque.
Et vous faites référence à ce livre de 1487, Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, rédigé par des professeurs professeur allemand en théologie, il appelle à torturer les femmes. C'est une série de féminicides qui va succéder après ce livre.
Oui, et qui, et en dehors même du féminicide pur, va créer un climat de terreur pour les femmes, notamment pour les femmes seules, parce que c'est elles qui sont visées, celles qui sont pas sous la protection d'un homme. Et puis ça correspond à un moment où on commence à se méfier des femmes en général, et ça va marquer un recul. Elles vont être exclues de corporations de métiers, elles vont perdre des droits très concrètement.
La Révolution, période régressive en fait pour les femmes, alors que c'est un moment où on acquiert de nouveaux droits, de nouvelles libertés. C'est étrange ça quand même, c'est très paradoxal.
C'est très paradoxal, a priori. Alors quand on lit les textes, on comprend un peu mieux. Hein. Effectivement, on va faire à la Révolution l'égalité, mais alors l'égalité entre les hommes, très bien, qui va être une égalité plutôt au maximum des droits, et l'égalité entre les femmes va se faire par le nivellement, par en bas. C'est-à-dire qu'avant la Révolution, il y a des femmes, notamment les veuves propriétaires foncières, ont des droits de vote dans des assemblées. Là, toutes les femmes perdent le droit de vote. Donc elles ont toutes plus aucun droit, elles sont toutes égales entre elles, effectivement.
On les met complètement de côté.
Elles sont complètement exclues alors qu'elles participent à la Révolution. Mais elles participent, elles sont soldates de l'armée révolutionnaire, elles sont canonnières, elles sont journalistes, elles sont...
Il y en a quelques-unes qui réagissent, évidemment on pense à Olympe de Gouges dont on a déjà parlé, mais pas seulement. Il y en a quelques-unes qui réagissent, mais globalement, on a le sentiment quand même que ces femmes n'ont pas voulu garder, conserver ce qu'elles avaient réussi à acquérir jusque-là. C'est faux ça ou pas comme impression ?
Alors dans les sources, on trouve, il y a un peu cette idée, mais qui est assez belle, de femmes qui sont tellement pour la Révolution qu'elles sont prêtes effectivement à sacrifier une partie de leurs droits pour, voilà, en se disant mais ça viendra après, la Révolution avant tout. Et ce qu'on retrouvera au XXe siècle chez les militants d'extrême-gauche.
Un siècle des Lumières qui n'a pas brillé pour son esprit égalitaire envers les femmes. Les guerres, on a... souvent dit que la Première Guerre mondiale avait permis une libération des femmes quand elles ont remplacé les hommes au travail. Or, les historiennes ne sont pas toutes d'accord sur cette vision des choses.
Oui, c'est assez, voilà, c'est dans les découvertes que j'ai faites, c'est assez discuté, parce qu'en fait, après la Première Guerre mondiale, il y a vraiment pour les hommes qui reviennent du front l'idée de, il faut retrouver la France d'avant. Et on est sur une virilité qui a été meurtrie, qui a été blessée, ça a été terrible. Il faut absolument que les femmes retournent à la maison et que voilà, on retrouve la France d'avant le massacre. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il faut repeupler quand même la France. Et donc les femmes sont réduites à la fonction d'utérus et passent à ce moment-là les lois les plus dures de notre histoire contre l'avortement pour que voilà, les pousser à faire le plus d'enfants possible.
Un chapitre, pas mal de pages aussi sur le droit de vote des femmes, on va l'évoquer ce matin dans le milieu des années 30. Il y a une femme, hein, Louise Weiss, qui va mener ce qu'on appelle une campagne d'ironie pour convaincre ces machos, ces hommes qui ne veulent pas laisser les femmes voter. C'est quoi cette campagne d'ironie ?
Alors, elle essaye de faire des actions coup de poing. Alors vraiment, c'est le même militantisme que de nos jours, quoi. Moi, ça me parle beaucoup. Des actions coup de poing, mais qui puissent faire la une des médias en ne faisant pas passer les féministes pour des femmes trop agressives non plus. Donc, faut réussir à être dans l'humour. Mmh. Et elles font quelque chose, mais alors de nos jours, ça serait impossible. Hein, on se ferait lyncher. Elles perturbent la finale du championnat de France de foot.
Avec un ballon.
Avec des ballons où elles ont accroché des tracts, etc. Enfin,
une montgolfière, je veux dire.
Voilà. Et je me dis, mais si on faisait ça de nos jours, mais le scandale.
Ça finirait en prison.
Oui.
Mais cette Louise Weiss, elle est intéressante aussi parce que, comme vous l'expliquez très bien, on est sur une campagne d'ironie, c'est gentil. Les Anglaises sont beaucoup plus dans la radicalité. Elles m'ont apparu en tout cas beaucoup plus dures que ça. Est-ce que la radicalité est nécessaire pour les femmes pour avancer ?
Alors, la question se pose même avant Louise, Madeleine Pelletier, donc c'est fin du 19e, début du 20e, dit en gros, donc c'est la première femme psychiatre française, militante féministe pour le droit de vote, et elle dit casser des carreaux, c'est pas bien, mais si le seul moyen de se faire entendre, c'est de casser des carreaux, eh ben on va les casser. Et effectivement, à ce moment-là, les femmes sont quand même, les féministes françaises sont plus dans des actions vraiment coup de poing. Elles vont attaquer des bureaux de vote. Hubertine Auclair va jeter par terre une urne. Enfin bon, donc elles sont dans un affrontement un peu physique. Hein.
Mais aujourd'hui encore, aujourd'hui, ça n'avance que quand il y a un mouvement radical ou pas ?
Je pense qu'il faut les deux. Parce que c'est vraiment une question de positionnement. Il faut de la radicalité. Et puis après, moi, Gisèle Halimi m'a énormément appris là-dessus. Elle était très radicale. Et puis à un moment, elle est allée voir Mitterrand. Elle s'est dit, voilà ce que je veux, quoi. Mm-hmm. Et là, elle a passé des accords.
Et là, il faut négocier.
Et ouais. N'empêche qu'elle n'entrera pas au Panthéon. Gisèle Halimi, un livre, Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes, Titu Lecoq, vous le présentez comme un plaidoyer pour, je cite, déviriliser l'histoire. Un mot d'Éric Zemmour, à qui l'on prête de grandes ambitions politique, il estime qu'il y a chez les féministes une volonté de réécrire l'histoire au nom d'une détestation des hommes. Vous auriez donc, vous aussi, dans ce livre, tenté de réécrire l'histoire ?
Alors voilà, c'est important de le dire, ce que j'écris, ça sort pas de nulle part, ce sont vraiment des travaux scientifiques récents, sourcés, hyper appuyés, enfin vraiment les historiennes, elles font très très attention là-dessus. Donc non, c'est pas notre imagination qui nous fait réécrire l'histoire, c'est faux. Et on sait que Zemmour, qui se pique quand même d'histoire, dit beaucoup beaucoup d'erreurs. En dehors de la question, on peut considérer que je suis partisane sur les femmes, on sait que sur le régime de Vichy, il a dit des choses où les historiens disent non, c'est faux.
Il y a même un livre qui reprend en détail les contre-vérités que peut exprimer Éric Zemmour, enfin qui sont présentées comme telles. Ce courant masculiniste, est-ce qu'il est aujourd'hui simplement autour d'Éric Zemmour ou est-ce qu'il prend de l'ampleur au-delà du personnage ?
Il prend de l'ampleur, surtout il se structure. Et il est de plus en plus actif. Alors, on le voit très bien sur Internet. Il y a vraiment ce qu'on appelle la manosphère. Ce sont des militants masculinistes qui vont harceler des femmes, qui vont les menacer. Donc celle-là, c'est très présent, c'est inquiétant. On n'est pas au stade des États-Unis ou du Canada. Mais je pense que c'est dans les dangers à surveiller.
Mercredi, à ce même micro, on recevait sur France Inter le philosophe Alain Finkielkraut. Il regrettait le patriarcat qui n'existe plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Titu Lecoq ?
Non, mais il faut vraiment être un homme de son âge pour considérer que voilà, il n'y a plus de problème. Non, c'est évidemment complètement faux, mais tous les chiffres le disent. Là, pareil, c'est pas moi, mon ressenti, mon doigt mouillé. C'est les inégalités de salaire, c'est les violences conjugales, les violences sexuelles, voilà.
Titu Lecoq, donc, on lira tout cela dans votre dernier livre, Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a donc effacé les femmes. Préface, je rappelle, de Michel Perrault, l'historienne, et ça vaut toutes les validations du monde. Merci Titu Lecoq et bonne journée.